place publique.
Elle suit les pas de la militante suédoise Greta Thunberg et compte bien faire bouger son école à Malraux en faveur du climat. Diane Lou, 14 ans, a lancé la grève du silence et elle est notre invitée dans un instant. On espère bien qu'elle ne gardera pas le silence du coup. Les radios régionales romandes ne veulent pas de l'arrivée de nouveaux programmes commerciaux sur le réseau DAB+. La Confédération a en effet octroyé une concession à un nouvel acteur de la branche qui compte entre autres lancer des radios de promotion d'entreprise. Une concurrence jugée néfaste et inutile, c'est ce que nous dira Pierre Selet, administrateur des radios du groupe BNJ. Enfin, on vous propose un entretien avec la grande reporter française Anne Niva. La journaliste était récemment de passage dans la région. L'occasion de nous donner sa vision sur les évolutions qui touchent la profession et les médias. Elle plaide aussi pour un journalisme de terrain et sa devise c'est « mieux vaut montrer plutôt que démontrer ».
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Et si le meilleur moyen de se faire entendre, c'était de rester silencieux? En tout cas, c'est le pari gagnant réussi par une jeune écolière de 14 ans dans le Jura bernois. Diane Lou Pello-Istès a décidé un jour de se mobiliser pour le climat sans sécher les cours. Et son idée, faire la grève en classe, c'est-à-dire en silence. Ni une ni deux, la direction de l'école de Malraux lui propose de s'exprimer du coup devant l'ensemble de ses camarades pour lancer des actions. Mais l'ambition de Diane Lou, comme on l'appelle, ne s'arrête pas là. La militante de Sorvilliers encourage tous les écoliers à faire de même et à agir localement via des vidéos sur YouTube. Les médias en Suisse romande l'ont déjà surnommée la Greta Thunberg de Suisse romande. Diane Lou, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, on vous présente volontiers comme la nouvelle Greta Thunberg en Suisse romande. Est-ce qu'on a raison de le faire?
Alors, je pense que ce n'est pas forcément évident parce que moi, je suis Diane Lou, en fait, et j'ai décidé de faire cette grève du silence, pas pour scinder deux clans, en fait, mais pour permettre aux jeunes qui n'ont pas la possibilité de faire la grève de l'école parce qu'ils habitent dans certains cantons qui l'interdisent, de quand même pouvoir faire quelque chose et faire passer leurs idées.
Mais c'est quand même, du coup, Greta Thunberg qui vous donne une impulsion, qui vous donne un exemple.
Ça, oui.
Alors, vous avez réussi donc à faire du bruit hein, en faveur du climat grâce au silence. Comment vous est venue cette idée, précisément?
Alors, j'ai discuté avec mes parents. Et pour ma situation, en fait, j'ai préféré faire une grève du silence, ce qui serait mieux adapté, en fait.
Parce que sinon...
Parce que j'ai hésité à faire la grève de l'école comme Greta Thunberg le proposait. Mais voilà, pour quand même pouvoir faire passer mes idées, rester en classe et que les gens ne puissent pas m'accuser d'être absente.
D'accord, on l'a bien compris. Et puis ça a marché. Hein, dans votre école à Malraux, ça a vite interpellé.
Oui.
Avec votre direction qui vous propose de vous adresser à vos camarades. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment ça se passe?
Alors, j'ai proposé de faire 5 groupes de travail avec environ 10 personnes par groupe qui travaillent maintenant sur 5 projets différents pour l'écologie.
Et ça a été entendu? Les camarades ont réagi positivement?
Oui, très positivement, oui.
Et du coup, quelles sont les pistes d'action? Vous parlez de groupe de travail, vous planchez sur quel genre de mesures?
Alors, il y a différents groupes. Un, par exemple, essaye de monter une exposition qui parle justement des changements climatiques. Une autre essaye de récupérer des sous pour une collecte de fonds à verser à une association. Mmh. Qui s'occupe des animaux en danger. Une autre écrit une lettre ouverte au Conseil fédéral. Et voilà, encore 2 autres groupes, tous des groupes différents qui travaillent sur différents objectifs.
Alors si vous vous engagez, si vous prenez la tête de ce mouvement hein, dans votre école, c'est aussi que vous en aviez marre d'entendre certaines choses sur ces jeunes qui descendent dans la rue. On dit qu'ils ne sont pas forcément cohérents, qu'ils ne font pas forcément ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent sur les pancartes.
Oui, voilà. On nous accusait de juste dire oui et de militer et de ne rien faire de concret.
Et du coup, avant de s'engager publiquement, pour vous, c'était aussi important de prendre des décisions qui ont une incidence dans votre vie personnelle, dans votre vie privée, pour que, justement, on ne vous accuse pas de ne pas être cohérente.
Oui, effectivement. J'ai décidé, par exemple, de ne manger de la viande plus qu'une seule fois par semaine, pour limiter ma consommation, de vraiment faire attention à ne plus partir en vacances en avion, sensibiliser mes parents aussi.
Ça marchait ?
Oui, oui, on réfléchit longtemps maintenant.
Et vous partez où alors ? Vous allez en vacances au bord du lac ?
Oui, on est allé faire une randonnée à cheval, par exemple, avec ma maman.
Et ça, c'est tout aussi bien. Oui. D'autres mesures aussi, vous parlez d'emballage plastique, hein, par exemple.
Oui, là, on pourrait faire quelque chose. J'ai déjà vu qu'on utilisait des sacs en papier ou comme ça. Plein de petits gestes à faire qui doivent devenir maintenant plus grands.
Alors, vous vivez dans le Jura bernois, hein, c'est une vallée verdoyante, la vallée de Tavannes. C'est pas toujours simple, on imagine, de ressentir l'urgence climatique en pleine campagne. Est-ce que malgré tout, vous avez vu des signes ou des choses qui vous ont interpellé, qui vous ont inquiété ?
Oui, par exemple, les plantes ou les arbres qui ont d'un coup fleuri. Et puisqu'il y a encore eu du gel, voilà, tout est mort et tout doit recommencer. À revivre.
Vous avez l'impression que tout est un peu déréglé.
Oui, voilà.
Et vous entendez aussi, j'imagine, parler de ces neiges d'antan qui tombent plus vraiment. Enfin voilà, c'est tout ça qui vous interpelle.
Oui. Et quoi ? Ainsi que la fonte des glaciers assez proche de chez nous.
Bien sûr. En tout cas, il faut un certain courage pour oser s'engager publiquement à l'âge de 14 ans, que ce soit comme ce soir, hein, répondre aux questions en direct à la radio, ou bien en publiant même, je l'ai dit tout à l'heure, des vidéos sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire le pas, qui vous a donné ce courage ?
C'est Greta Thunberg, justement, qui m'a permis de comprendre que je pouvais moi aussi faire quelque chose et que nous tous, en fait, nous pouvions agir.
Et chacun à sa manière, vous avez des ambitions d'inspirer au-delà de votre école à Malraix.
Oui, voilà. Que tout le monde puisse fixer des objectifs, les atteindre et continuer.
Et des objectifs, vous en donnez des pistes. Alors, vous avez parlé de viande, vous avez parlé de moins prendre l'avion, vous avez parlé d'emballage plastique, c'est un peu ce genre-là de mesures ou vous imaginez encore d'autres choses ?
Oui, en fait, chacun à son échelle. Par exemple, l'eau, chez nous... on a de l'eau, mais en Afrique du Sud, ils doivent maintenant vraiment faire attention. En fait, chacun à son échelle peut faire de petits gestes pour économiser ou pour rétablir un équilibre.
Alors pour être l'image d'une mobilisation, même à 14 ans, si on pense à Greta Thunberg qui est même plus âgée que vous, eh ben, il faut être aussi un peu entouré, être coaché. On sait qu'à vos côtés, il y a votre père aussi qui joue un grand rôle. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est un travail d'équipe ?
Oui, c'est un travail d'équipe. Mon frère m'aide à faire les vidéos. Mon papa me coache. Et ma maman me fait lire des articles et m'explique les phénomènes scientifiques.
Eh bien, voilà qui est tout à fait beau à vivre en famille, on imagine. Vous souhaitez pour la suite, puisque l'année prochaine vous allez au lycée, vous souhaitez continuer d'être un peu, comme on pourrait dire, le visage, l'égérie de ce mouvement, ou vous souhaitez retrouver l'anonymat tout bientôt ?
Non, j'aimerais pouvoir continuer, mais pas forcément moi toute seule, puisque c'est pas possible. Mais des amis m'ont déjà proposé de continuer à m'aider. Et voilà, je suis prête à continuer.
Eh bien, rendez-vous est pris. En tout cas, on se réjouit de voir les fruits de votre engagement, de la mobilisation que vous suscitez. Merci beaucoup, Diane Loupello-Istès, d'être venue en direct dans Place Publique. On le rappelle, vous êtes une écolière de Malraix, à l'école de Malraix. Vous habitez Sorvilliers dans le Jura bernois. Et vous avez 14 ans. Vous êtes très jeune, mais vous avez plein d'idées et plein de courage. On vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venue dans Place Publique. Et il est temps de s'informer avec Adrien Juvet.
Bonsoir, la Nati est sur le point de s'imposer à Bratislava. L'équipe de Suisse de hockey sur glace va achever d'ici quelques minutes son quatrième match dans ces championnats du monde. À 2 minutes de la fin du troisième tiers-temps, la Nati mène 4-0 face à la Norvège. Les travaux à la patinoire de Port-en-Truy vont bon train. L'avancée du chantier d'agrandissement a été présentée cet après-midi. Le permis de construire a d'ailleurs été délivré ce matin par le canton du Jura. Le démontage de la façade façade ouest a débuté la semaine dernière de manière anticipée. Le restaurant et l'entrée principale ont déjà disparu. Faire la grève, oui, mais à ses frais. La ville de Bienne s'est prononcée sur la question de la grève des femmes du 14 juin. Les employés municipaux biennois pourront y participer, à condition toutefois de prendre congé et dans la mesure du possible, selon un communiqué de la ville publié aujourd'hui. En outre, le congé peut être octroyé en compensation d'heures supplémentaires en prenant sur les jours de vacances ou alors en formulant une demande de congé non payé. Les finances 2018 de la ville du Locle sont toujours dans le rouge. Les comptes de l'exercice présentent un déficit de presque 600 000 francs, alors que le budget prévoyait une perte de plus de 5 400 000 francs. La reprise conjoncturelle ne parvient pas à équilibrer les comptes et la dette dépasse les 109 millions de francs. Le responsable du département de la sûreté de Genève Aéroport a été arrêté par la brigade financière aujourd'hui. Il est soupçonné d'actes de corruption lors de l'attribution de certains marchés publics à une société de sécurité. Le ministère public genevois a mené des perquisitions sur différents sites de Cointrin. Le département d'État américain ordonne à son personnel diplomatique non essentiel de quitter l'ambassade de Bagdad et le consulat d'Erbil dans le nord de l'Irak. Une décision prise dans un contexte de tensions croissantes avec l'Iran voisin. La bise restera soutenue ce soir, ce qui favorisera une nuit fraîche. Demain matin, le temps sera en partie ensoleillé, mais bonne nouvelle, la bise va enfin faiblir. Au meilleur de la journée, il fera jusqu'à 15 degrés en pleine, 11 degrés vers 1000 mètres d'altitude. Vendredi, le ciel va se couvrir au fil de la journée. Des averses devraient toucher l'arc jurassien d'ici la fin de journée. Prochaines informations, c'est le flash à 19h. Excellente soirée.
Place publique. Gabriel Devecq.
Les radios régionales romandes s'inquiètent de l'arrivée de nouvelles radios commerciales sur le réseau numérique DAB+. Réunies au sein de Romandie Média SA, ces radios contestent une décision prise lundi par la Commission fédérale de la communication, la Comcom, qui a en effet décidé de confier d'ici 2024 l'exploitation de 16 nouvelles radios à un nouvel acteur médiatique, soit DABcom. Et pour les radios régionales, dont les radios BNJ, il s'agit d'une concurrence néfaste et d'une nouvelle offre inutile, elle qui avait elle aussi un projet à proposer. Alors Romandie Média va déposer un recours au tribunal fédéral administratif et on parle de ces enjeux avec vous, Pierre Stelet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'administrateur délégué de BNJ FM qui détient, on le rappelle, RJB, RTN, RFJ et GRIF. Alors selon la Confédération, l'offre de vos concurrents assure une meilleure diversité et une vraie alternative. Si on se place du point de vue des auditeurs, Pierre Stelet, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ?
Je crois qu'il faut faire extrêmement attention entre la diversité et puis la concurrence, parce que on peut analyser la situation avec ce qui s'est passé avec le programme GRIF. Lorsque l'OFCOM a dû faire un choix entre GRIF et l'autre projet jurassien, on a constaté que l'autre projet n'avait pas le choix de faire à peu près la même chose que ce que faisait en gros RFJ, RJB et RTN. Donc, on se trouvait dans une situation de concurrence et non pas de diversité. En revanche, le programme de GRIF apporte une vraie diversité. Donc, ce nouveau bouquet de 16 programmes, pour moi, il va essayer de faire à peu près la même chose, en tout cas pour une partie des programmes, à peu près la même chose que ce qu'on fait déjà. Donc, nous serons dans une situation de concurrence, avec des radios commerciales françaises qui pourront casser les prix. Je pense qu'on sera dans une concurrence très malsaine. Et moi, je ne comprends pas que l'OFCOM et la Comcom veuillent soutenir ou imposer des radios d'entreprise. Ça me paraît, disons, un non-sens par rapport au développement des médias aujourd'hui.
Vous parlez de radios commerciales françaises, de radios d'entreprise. En quoi c'est sur le même créneau que ces bonnes vieilles radios locales, régionales, qui font leur travail de proximité ?
C'est-à-dire que d'abord, nous, on a une concession qui nous oblige à faire de l'information régionale. Si vous avez une radio commerciale française qui débarque, elle ne va absolument pas faire d'information. Donc, le programme va coûter nettement meilleur marché. Faire un simple programme musical n'a rien à voir avec faire de l'information régulièrement. En plus, l'OFCOM, à partir de l'année prochaine, alors nous, ça ne va pas tellement nous toucher parce qu'on est déjà suffisamment doté au niveau de l'information, mais va imposer aux radios qui ont une concession actuelle de faire plus d'informations, arriver à un certain quota d'informations. Moi, je trouve que c'est très bien en soi. Mais alors, qu'elle l'impose aussi à ces radios d'entreprise et à ces radios commerciales françaises, ce qui n'est absolument pas le cas.
Et donc, il y aura une concurrence que vous jugez déloyale avec, au niveau des risques principaux, un morcellement du fameux gâteau publicitaire, des revenus en moins et donc plus de difficultés pour assumer vos missions.
Mais imaginez maintenant qu'on dise on veut 16 quotidiens hein, qui soient publiés tous les jours en Suisse romande. Vous imaginez ? Il faut que le public se rende compte. On sait que les médias, la presse en général, est quand même en situation un peu difficile, partout en Suisse, mais pas seulement. Et puis, tout d'un coup, on veut nous imposer 16 programmes supplémentaires. Je trouve ça aberrant, quoi. C'est impossible de faire vivre quelques quotidiens supplémentaires en Suisse. On sait qu'il y a eu quelques tentatives face au démantèlement qu'il y a eu dans les grands groupes. Et on voit très bien que c'est quasiment irréaliste. Alors, amener des radios commerciales françaises et des radios d'entreprise, c'est casser le marché. On a bien vu avec l'arrivée de la publicité sur TF1, sur M6, etc. Maintenant, il y a plus de publicité suisse sur ces deux chaînes qu'à la TSR. C'est un petit peu dramatique et les politiciens n'ont rien pu faire puisque la loi était mal faite. Et que le tribunal fédéral a dû donner raison à ces deux chaînes françaises. Et là maintenant, l'Ofcom, qui a été, je dirais, à l'origine de cette situation avec l'arrivée des chaînes étrangères, hein, également en Suisse alémanique, l'Ofcom fait la même erreur, mais volontairement, sous prétexte de libéralisme. Moi, je trouve ça complètement un non-sens.
Mais expliquez-moi, Pierre Steller, Romandie Média et ça avait aussi une offre hein, pour exploiter cette quinzaine de chaînes.
Mais oui, mais
quoi,
si vous voulez,
de quoi aussi diviser encore le gâteau publicitaire et disperser les audiences, non ?
Non, justement, parce que nous, on avait cherché des solutions de façon à éviter de trop casser le marché publicitaire. Tandis que là, en imposant des radios commerciales françaises et des radios d'entreprise, imaginez Migros ou Coop qui nous fassent un programme radio, ben, je veux dire, qu'est-ce qu'elles vont faire ? D'abord, leur propre publicité, ça paraît évident.
Mais donc, c'est quand
si
même pas...
Si elles font leur publicité sur leur chaîne, elles vont automatiquement en mettre moins sur les autres chaînes.
Mais c'est pas Migros et Coop qui vont aller suivre les sessions du Grand Conseil, du Parlement jurassien, ou qui vont suivre les assemblées communales, ou recenser l'actualité de nos régions. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le cœur de la mission de vos radios est suffisamment fort et suffisamment apprécié ? On l'a vu après la votation Nobilag, pour que ces radios commerciales d'entreprise ne fassent pas ombrage.
Oui, mais si vous voulez, on ne va pas disparaître. On va se battre, ça c'est une évidence. Mais si vous perdez 10% du chiffre d'affaires, ça peut représenter plusieurs postes de travail. Et ces postes de travail, on devra les couper où ? Très vraisemblablement au niveau des journalistes et donc au niveau de l'information. Donc quelque part, c'est un non-sens. L'Ofcom souhaite qu'on fasse davantage d'informations, puis quelque part, ils veulent nous couper une partie des vivres. On est dans l'aberration.
Mais alors, si... combien même ces radios arrivent à s'implanter. On parlera de l'action que vous allez tenter au niveau du tribunal fédéral administratif dans un instant, mais mettons que vous perdiez et que ces radios voient effectivement le jour et que vous perdiez un peu de revenus publicitaires, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que au vu de la qualité et au vu des attentes de la population qui l'ont encore dit dans les urnes, vous demandiez plus de redevances ?
Ah ben, je pense que c'est une évidence, mais si vous voulez, dès le moment où on demandera plus de redevances, ça va peut-être faire plaisir à certains partis politiques, mais disons, on rentre, passez-moi l'expression, dans le cadre de la SSR. Alors, c'est un choix qu'il faudra faire. Jusqu'à présent, en Suisse romande, on a toujours essayé de trouver un terrain d'entente avec la SSR. Elle devra faire 100 millions d'économies. Si on lui demande de mettre je ne sais pas combien de millions supplémentaires à la disposition des radios et des télévisions locales à cause de l'arrivée de radios commerciales françaises ou de radios d'entreprise, peut-être que la SSR va un petit peu montrer les dents. Donc, c'est pas une situation très facile, mais évidemment, si les revenus publicitaires baissent, ben, on va forcément demander plus de redevances. Mais nous, a priori, c'était pas notre démarche.
Pierre Steller, vous connaissez par cœur, après tant d'années, les règles du jeu en matière de négociations politiques, en coulisses, au sujet de la politique des médias. Avec quel argument vous pensez que votre recours au tribunal fédéral administratif peut l'emporter ?
Alors, je crois qu'au niveau du tribunal administratif fédéral, il ne faut pas se faire d'illusions. La politique ne pourra pas avoir d'influence, ou très peu. Mais je crois que dans le cadre d'un tribunal et à ce stade-là, il ne faut surtout pas amener des arguments politiques. Je crois qu'il faut amener un certain nombre d'arguments cohérents par rapport à la situation qui prévaut. Mais on ne va pas, disons, agir au niveau politique dans le cadre de ce recours au tribunal fédéral. En revanche, lorsqu'on verra les dégâts que pourront provoquer ces différentes stations de radio qui s'implanteront, c'est là, disons, qu'il faudra faire réagir le monde politique. Puis c'est là qu'il va peut-être prendre conscience du risque que l'Ofcom a pris avec la Comcom, parce que finalement, la Comcom a été, comment est-ce qu'il faut dire ça, un organisme d'enregistrement, mais c'est tout l'Ofcom qui a manigancé tout ça. Je ne comprends pas très bien pourquoi, d'autant plus que...
Une commission qui se dit quand même
neutre. La Suisse romande doit faire cobaye un petit peu, parce que pour l'instant, ils n'ont pas imposé ça à la Suisse alémanique, alors que la Suisse alémanique, avec 16 programmes supplémentaires, et puis plus du double d'habitants, ça causait moins de dégâts. Puis en plus, la Suisse alémanique, ils ont quand même le dialecte pour les protéger, ce qu'il n'y a pas en Suisse romande.
Alors comment ça se fait qu'on impose à la Suisse romande ce qu'on n'impose pas à la Suisse alémanique? C'est le dialecte?
Non, je pense que je pense que il y a beaucoup plus de fonctionnaires suisses alémaniques à l'Ofcom. Ils ont beaucoup plus de poids que les romands. Puis en plus, les romands, ils sont pas au niveau décisionnel, ils sont plutôt au niveau administratif et juridique. Et puis un certain nombre de fonctionnaires qui ont le libéralisme dans la tête et puis qui veulent absolument faire une expérience.
Ce soir, vous parlez aussi aux futurs élus qui siégeront à Berne après les élections fédérales. Est-ce que ces élus ont quelque chose à dire, quelque chose à faire dans ce cadre-là, ou comme vous le disiez tout à l'heure, la politique n'a malheureusement pas son mot à dire?
Alors, comme je vous ai dit avant, l'implantation des émetteurs ne va pas se faire en un coup de cuillère à peau. Il faut un certain temps pour pouvoir monter ce projet. 2024, c'est disons l'ensemble du projet. Il va être monté à partir de 2020-2021. Et c'est à ce moment-là qu'on verra exactement les dégâts qu'ils vont faire. Parce que, évidemment, le concurrent a essayé de dire à l'Ofcom, oui, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de radios commerciales françaises, etc., etc. Mais on sait très bien que s'ils doivent trouver 16 programmes, et 16 programmes qui pourront payer, parce que ça coûte cher de faire un programme, non seulement de faire le programme, mais encore de le diffuser, ils prendront ceux qui auront les moyens de payer. Et puis ceux qui auront les moyens de payer, ce sont les grandes chaînes françaises, pas les petites radios non commerciales.
Alors vous représentez Romandie Média, les radios régionales et d'autres, et on sent votre colère, on sent votre inquiétude, et on lit dans votre communiqué diffusé hier que vous allez poursuivre le développement du DAB+, mais que vous renoncez désormais à fixer une date d'extinction de la FM. Vous ne voulez plus la mort de la FM. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre?
Alors, il faut être clair qu'en Suisse romande, on a toujours été réticents. Mais il y avait une pression d'une part des Suisses alémaniques, donc des radios régionales suisses alémaniques et de la SSR, pour qu'on arrête la FM fin 2023, mi-2023. Enfin, il y a plusieurs dates qui ont été avancées. Et on a toujours été assez réticents à l'arrêt de la FM, pour tout un tas de raisons. Maintenant, notre position, elle est claire. Tant et aussi longtemps qu'il y aura un risque de perdre des auditeurs, parce qu'il faut quand même savoir que si le DAB marche très bien en extérieur, ça veut dire réception dans les voitures, ce genre de choses, on sait que dans les maisons qui ont des murs de 80 cm d'épaisseur, dans les gorges un petit peu cachées, dans les radios, dans les maisons Minergie, il y a un certain nombre de problèmes pour pénétrer à l'intérieur de ces bâtiments. Et le fait de ne pas pénétrer correctement à l'intérieur d'un certain nombre de bâtiments engendre un risque probable de perdre des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui en FM. Donc tant qu'on n'aura pas la certitude de pouvoir couvrir avec la même efficacité le DAB que la FM, on s'opposera à l'arrêt de la FM.
Pierre Stelet, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. On le rappelle donc, au nom de Romandie Média, vous déposez un recours au tribunal fédéral administratif contre l'arrivée de nouveaux acteurs, de nouvelles stations radio commerciales et d'entreprises. On suivra bien sûr la poursuite de ce dossier. Bonne soirée.
Ouais, je tiens juste à dire que là, je parle au nom des radios régionales romandes. Je suis président de cette société Romandie Média, mais nous sommes 10 actionnaires dans cette société, et les 10 actionnaires en question sont solidaires. Je ne suis pas le meneur dans cette histoire, mais nous sommes tous ensemble solidaires.
Eh bien, on prend note de cette précision. Merci, bonne soirée Pierre Stelet.
Bonne soirée.
Place publique.
La journaliste française Anne Niva a couvert ces 20 dernières années les théâtres de guerre les plus sensibles à travers le monde pour le compte des plus grands quotidiens. On la retrouve en Tchétchénie, en Afghanistan, après les attentats du 11 septembre. On la retrouve aussi en Irak ou encore en Syrie. Non seulement elle rédige des articles, mais aussi elle rend compte de ses expériences dans plusieurs ouvrages. Elle est la fille de Georges Niva, grand intellectuel et spécialiste de la Russie. Elle a été correspondante durant plus de 10 ans à Moscou. Et elle signe d'ailleurs un ouvrage paru l'année dernière intitulé « Un continent derrière Poutine ». Anne Niva, qui enseigne à l'Académie de journalisme à Neuchâtel et qui était de passage récemment dans la région à l'invitation des radios de BNJ. On lui a demandé de nous dire en quoi le métier de grand reporter peut servir d'exemple à des journalistes dans les médias locaux ou régionaux. Quels sont les points communs entre ces deux approches ? Anne Niva.
Le dénominateur commun, c'est la curiosité, évidemment. C'est-à-dire que pour moi, et d'ailleurs c'est ce que j'enseigne à mes étudiants à l'AJM à Neuchâtel, où je vais tous les ans depuis 10 ans, l'Académie du journalisme et des médias, c'est que le grand reportage, ça commence en bas de chez soi. Moi, il se trouve que j'ai commencé par le pire, et dans des sociétés que je ne connaissais pas, lointaines, très différentes de celles dans lesquelles j'ai grandi, mais on peut et on doit, si on est journaliste, bien sûr, avoir la même capacité d'étonnement, de curiosité, de respect vis-à-vis de toutes les sociétés et vis-à-vis de là où l'on vit également. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'en suis venu, après tous ces terrains de guerre, à oser observer mon propre pays, la France.
Est-ce qu'en 2017, quand vous allez dans certaines villes de France pour investiguer, est-ce que vous vous rendez compte du malaise auquel on assiste aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce livre, « Dans quelle France on vit ?», qui est paru au moment des élections présidentielles dernières, puis ensuite en livre de poche. Mais moi, ça fait déjà quelques années avant cela que je m'étais rendu compte des malaises. Je sentais des malaises justement quand je rentrais de mes pays en guerre. Les pays en guerre, donc l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, dans lesquels j'ai beaucoup été, beaucoup évolué. Mais il y a toujours un moment où on revient. On revient, donc on revient éreinté, déprimé, cassé, au sens propre comme au sens figuré. Et on revient dans son propre pays. Et alors que la France n'est pas en guerre, je me rendais bien compte qu'il y avait matière à écrire en observant cette société. Et aujourd'hui, tout le monde me dit oui, tu as été une précurseur, les Gilets jaunes, etc., puisque mon livre est paru avant les Gilets jaunes. Alors, je pense, non, j'ai été en rien précurseur, j'ai simplement observé. Et je pense que c'est pour moi ça, le cœur même du métier de journaliste, ce que parfois les journalistes d'aujourd'hui oublient un petit peu de faire. C'est prendre le temps d'observer l'autre.
On parle du slow food, on parle du slow journalisme avec vous. Il faut prendre le temps, il faut observer ce que ne font plus forcément toutes vos consoeurs, tous vos confrères.
Alors pas tous, hein, il ne faut pas exagérer. Mais moi, ce n'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui que je pratique ce genre de journalisme aujourd'hui. Je l'ai pratiqué dès le départ. C'est donc mon choix depuis que j'ai commencé dans le journalisme. Et que ce soit slow ou fast, finalement, peu importe ces dénominations et la façon dont on qualifie ce journalisme. Ce qui est important, c'est le travail, la rigueur, l'honnêteté dans ce que l'on observe et dans ce que l'on rapporte de ce que l'on a observé, l'absence de mise en scène, l'absence de jugement. Ça, je pense que c'est très très important. Aujourd'hui, il y a trop de jugements hâtifs, il y a trop de pseudo-experts, pseudo-spécialistes. Les journalistes sont censés avoir réponse à tout. Moi, je n'ai pas réponse à tout et je ne pense pas qu'un journaliste doit avoir réponse à tout. En revanche, un journaliste doit montrer, doit illustrer la complexité du monde dans lequel on vit. Démontrer, c'est autre chose. Moi, en tant que journaliste, je n'ai pas envie de démontrer, mais j'ai plutôt envie de montrer.
En 20 ans, il s'en est passé des choses en termes de journalisme, avec l'apparition évidemment des réseaux sociaux, la montée en puissance du numérique et ce qu'on appelle les fake news. Difficile avec cette avalanche d'informations d'y voir clair pour le public. Vous-même, comment vous trouvez votre chemin pour vous faire entendre avec votre manière de voir la profession ?
Non, mais moi, me faire entendre, ça n'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment le grand public comprend-il, reçoit-il les médias d'aujourd'hui et comment justement fait-il son choix. Effectivement, le grand public est souvent perdu. Les consommateurs des médias sont perdus dans le sens où il y a une avalanche d'informations, comme vous venez de le dire, qui ont l'air de toutes se ressembler. Et en fait, derrière cette apparence, il y a de l'idéologie, il y a du jugement, il y a des fake news. Mais il y en a toujours eu. des fake news. C'est tout simplement qu'elles se propagent beaucoup plus vite et qu'elles peuvent prendre ou pas de l'ampleur beaucoup plus vite. En fait, les médias d'aujourd'hui et les médias sociaux sont des caisses de résonance qui parfois mettent la loupe là où elle n'aurait pas lieu d'être, finalement. Et c'est ça le rôle du journaliste. Le rôle du journaliste, c'est de recontextualiser, de faire en sorte que chacun reste à sa place, de raconter les à côté, raconter avec nuance et détail, plutôt que de se précipiter et d'aller tous dans le même sens, telle une meute hystérique. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est l'hystérisation des médias et le fait que tout le monde surréagit.
Les pratiques évoluent, la consommation des médias évolue, les médias sont aussi sous pression, pression financière, c'est crucial par rapport à leur indépendance, leur autonomie, on le voit en Suisse notamment au niveau de la presse écrite qui se restructure, qui se concentre. Est-ce que le journalisme en tant que profession a un avenir, sachant qu'économiquement c'est de plus en plus délicat ?
Mais il faudra trouver d'autres modèles économiques. La nature ayant horreur du vide, ces modèles apparaîtront. Il y en a déjà qui sont en train d'apparaître.
Pour vous, c'est quoi le modèle d'avenir auquel peut-être on assiste déjà ?
Moi, je n'aime pas les modèles. J'ai construit toute ma carrière en dehors du système. Je suis sortie du système moi-même très tôt, peut-être un peu trop tôt, enfin bon, maintenant je ne le regrette pas, mais ça n'était pas facile au début de ma carrière, il y a 20 ans, d'être en dehors du modèle, c'est-à-dire de justement ne pas avoir pour désir principal, pour but principal, de rentrer dans une rédaction, de fonctionner en dehors presque à rebours. Dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle du freelancing, en France on dit pigiste, travailler à la pige, ça continue aujourd'hui à ne pas être véritablement la norme. Or, pour moi, c'est cela l'indépendance suprême. C'est une liberté qui m'a coûté cher, mais...
Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Mais qui m'a coûté cher dans le sens où j'ai, au début, très mal gagné ma vie. Il fallait que je cours après les piges pour me faire payer parce que j'étais rien ni personne et que les comptabilités des journaux pour lesquels je pigeais oubliaient de me payer. Enfin, bon, tout pigiste connaît ça. Et puis, donc, son nom, sa notoriété, il faut le faire. Et les jeunes journalistes à Neuchâtel, quand je les rencontre la première fois, ils me disent « Mais comment vous avez fait pour être là où vous êtes aujourd'hui ?» Ils croient que c'est arrivé tout de suite, mais ils font ma connaissance 20 ans plus tard. Donc je suis obligée de leur raconter des choses de bon sens qui sont simplement que moi aussi j'ai débuté. Et que moi aussi, quand j'ai débuté, ça n'était pas facile. Dans le sens où toutes les places étaient prises. Donc la place, il a fallu que je me la fasse dans le système médiatique qui était celui de l'époque. Alors certes, il n'y avait pas les médias sociaux, mais moi, mon rêve, c'était d'être correspondante à Moscou. Les places étaient très chères, il n'y en avait pas. Quand je suis arrivée à Moscou, les grands journaux français avaient leurs correspondants. Et moi, finalement, je le suis devenue correspondante parce que, je dirais même grâce à la guerre en Tchétchénie, en 1999-2000, qui a fait que j'ai pu me faire remarquer parce que j'ai écrit en tant que pigiste pour Libération et ensuite Libération m'a embauché. Eh bien, croyez-le si vous voulez, mais à la seconde où Libération m'a embauché, où je me rappelle très bien que j'ai signé ce contrat à durée indéterminée, que je pensais être le Graal, eh bien je n'en voulais plus. En fait, je me rendais compte que c'était finalement pas ça qui allait me rendre heureuse et que je préférais cette liberté de pouvoir choisir mes sujets, de pouvoir choisir combien de temps je passerais sur chaque sujet, de pouvoir décider où j'allais aller. Alors évidemment, c'est ce choix cornélien entre stabilité et instabilité. Mais aujourd'hui, je me dis que je n'ai pas eu tort. Et aujourd'hui où justement le système médiatique a complètement changé, énormément de jeunes journalistes optent davantage pour ce qui a été mon choix il y a 20 ans. Et moi, je prône cela, c'est-à-dire je suis tout à fait en faveur d'un plus grand nombre de journalistes freelance que de journalistes dans le système. Et je crois que c'est vers cela qu'on va aujourd'hui, justement parce que dans les rédactions, il y a moins d'argent et qu'un journaliste pigiste, bien sûr, coûte beaucoup moins cher qu'un journaliste qui appartient à une rédaction et auquel il faut payer un salaire.
Vous côtoyez les jeunes journalistes, vous leur enseignez votre art. Est-ce que vous sentez encore, parmi ces jeunes, une vocation d'aller aussi loin que vous êtes allé ou est-ce que votre parcours devient comme inatteignable ?
Ah non, il ne faut pas que ça soit inatteignable du tout. Non, je sens bien sûr chez les jeunes journalistes, et heureusement que je le sens, parce que si je ne le sentais pas, j'arrêterais d'enseigner. Et en fait, je n'enseigne pas véritablement, je partage avec les étudiants qui choisissent mon cours, mon expérience. Justement pour leur montrer qu'elle est possible, et qu'il est possible d'y trouver du plaisir, et il est possible d'en vivre également. Mais c'est une vie spécifique, bien sûr, ça n'est pas une vie standard. Donc, bien sûr que je rencontre chez ces jeunes journalistes ici en Suisse, il y a quelques Français qui viennent à la JM, mais ce sont majoritairement des étudiants suisses, une passion, un enthousiasme, et je sais, parce que ça fait 10 ans que j'enseigne à la JM, que certains d'entre eux sont devenus des grands reporters. Pas tous, mais je sais que s'ils sont devenus, c'est suite à mon cours. Et ça, c'est formidable parce qu'il y a mille et une façons d'être journaliste. Et je ne jette pas la pierre à ceux qui n'ont pas la même pratique que moi. Il faut des journalistes de desk. Il faut des journalistes qui restent dans leur rédaction et qui travaillent par téléphone ou sur Internet. Il faut une presse féminine. Il faut une presse spécialiste sur les voitures, le jardinage. Il n'y a pas que du grand reportage à l'étranger. Mais on ne peut pas dire que ce que je fais, c'est-à-dire m'intéresser au monde dans lequel nous vivons, même si ce monde est dur à regarder, n'est pas faisable. Non, ça on ne peut pas le dire et je ne peux pas le laisser dire.
La journaliste française Anne Niva qui répondait à nos questions, un entretien que vous pouvez retrouver tout à l'heure en ligne sur nos sites internet ainsi que sur nos applications. C'est tout pour Place Publique. Un grand merci à Yannick Frossard, Justine Cardicchi et Claude Catin pour la réalisation.
Place Publique.